Je vais surtout parler de Madrid, ville de cour au XVIIe siècle, hein, j'allais dire la ville de Madrid que je connais le mieux. Entre, en gros, 1606 et 1699, on va prendre de bord chronologique, le retour de la cour de Philippe III à Madrid après un court passage à Valladolid. Et 1699, la révolte des chats, qui est considérée comme la première grande émeute populaire madrilène avant les émeutes du XVIIIe siècle, que nous essaierons aussi de réviser cette notion d'émeute et de conflit. Alors, je vais d'abord vous montrer ce plan, le plan de la ville de Madrid au milieu du XVIIe siècle. Hein, c'est le plan de Texeira. Ce plan nous montre ce que peut être une ville de cour, comme il peut y en avoir d'autres dans d'autres royaumes, d'autres pays. Une ville de cour, c'est d'abord, par définition, le siège de la maison du roi, avec son expression matérielle, l'importance des palais. Hein, on voit ici, vous avez le palais du Buen Retiro et ses jardins construits par Philippe IV, le vieil Alcazar qui est en fait un héritage de la présidence arabe médiévale et qui a été refait à plusieurs reprises depuis Charles Quint. Donc, un espace palatin, ces deux traces matérielles en fait nous montrent un espace palatin, l'espace de la maison du roi et les différentes maisons de la famille royale. Espace palatin qui juridiquement est dominé, alors d'un côté par la chapelle royale et surtout par la junte du bureau, nom qu'a pris ce tribunal depuis l'intégration de l'étiquette bourguignonne à la cour d'Espagne, donc depuis 1546, 1548 essentiellement, même si l'intégration a commencé dès le début du règne de Charles Quint. Donc le grand majordome du roi est celui qui préside ce tribunal supérieur et qui a juridiction sur tous les membres de la maison du roi, y compris les trois gardes du roi, que sont la garde allemande, la garde espagnole et la garde flamande, qui comprennent à peu près 300 soldats, 300 officiers, plus leurs familles et aussi les retraités qui font toujours partie de cette garde. Donc ça, c'est un premier espace, ce que j'appellerais donc l'espace palatin, un espace qui n'est pas figé. Il faut bien comprendre que l'espace juridique est un espace qui n'est pas figé et considéré comme relevant de la maison royale tous les lieux où le roi est présent. Donc, par exemple, lorsque le roi se déplace de l'Alcazar pour aller au couvent de Las Casas, pour participer à une action de grâce, il traverse généralement les grandes artères de Madrid, et à ce moment-là, ces grandes artères peuvent passer sous la juridiction du bureau. La même chose lorsque le roi participe avec les membres de la cour, essentiellement les conseillers, à une cérémonie religieuse en public sur la place à Mayor, ou une exécution ou une fête de toros. Deuxième espace, c'est celui de la curia regis traditionnelle, c'est-à-dire de la cour comme lieu de gouvernement. Ce lieu de gouvernement, il s'est installé à Madrid. Ce sont les conseils qui siègent donc dans la capitale. Certains peuvent suivre le roi, mais la plupart siègent dans la capitale. Ces conseils sont tous considérés comme des juridictions supérieures, alors soit de type privatif, par exemple le conseil d'Aragon est là pour défendre les intérêts des Aragonais, et donc si un Aragonais commet un crime, il peut essayer de demander au conseil d'Aragon d'être son juge. Le plus important de ces conseils, c'est le conseil de Castille. Le conseil de Castille, c'est celui qui, en tant que conseil royal, joue le rôle de cour suprême du royaume et de l'ensemble de la monarchie, pas seulement de la Castille. Ce conseil de Castille, il exerce une tutelle particulière sur ce qu'on appelle les alcaldes de Casa y Corte, c'est-à-dire les six juges de l'hôtel et de la cour, que j'appellerai arcades de cour pour simplifier. Et ces six arcades de cour sont considérées comme la cinquième chambre, en quelque sorte, du Conseil de Castille. À partir de 1645, essentiellement, le Conseil de Castille a véritablement exerce une domination très étroite sur les alcades de cour. Alors les alcades de cour, c'est un tribunal supérieur qui juge en appel aussi bien au pénal qu'au civil, même si au civil, ces décisions peuvent être appelables directement devant le Conseil de Castille. Ces alcades de cour jouent aussi un deuxième rôle important, c'est qu'ils représentent finalement la cour du roi de transmission entre la cour et la ville. Ce sont les alcades de cour qui assurent la domination de la ville par la cour. Alors d'abord de manière extrêmement concrète, par la police qui est exercée dans la ville de Madrid. Cette police, elle appartient pour une part aux alcades de cour qui se sont partagés la ville en six quartiers. Chaque alcade de cour mène dans son quartier la police. Il y a à peu près 8 rondes qui sont effectuées dans chaque quartier, dont 2 de nuit. Et une de ces rondes est effectuée en présence de l'alcade de cour. Donc une domination territoriale de la ville qui entre en concurrence avec le troisième espace, c'est-à-dire la ville, véritablement. La ville qui est présidée par le corregidor. Le corregidor est élu, donc, désigné par le roi sur proposition du Conseil de la Chambre de Castille pour 4 ans. Il préside l'échevinage, c'est-à-dire le conseil municipal des 38 regidores. Et lui aussi a des fonctions de police sur l'ensemble de la ville et aussi sur l'ensemble du territoire de son corregimiento. Et donc il peut rentrer en concurrence avec les alcades de cour, une concurrence qui est toujours arbitrée par le Conseil de Castille, puisque le Conseil de Castille est considéré comme l'instance supérieure du corregidor. Alors le problème de toutes ces institutions, de cette superposition de trois espaces juridictionnels, c'est de pouvoir gouverner une ville qui est en pleine croissance démographique. On passe de 97 000 habitants environ à la fin du XVIe siècle à 150 000 vers 1659. Donc une forte croissance démographique et une difficulté à homogénéiser le gouvernement de la ville. Donc la question, c'est de savoir comment Madrid a pu devenir un laboratoire pour la police, pour l'exercice judiciaire. À partir du renouvellement d'une alliance symbolique entre la République madrilène, c'est-à-dire le corps de ville de Madrid, et les Habsbourg, afin de pouvoir assurer cette exemplarité que la maison d'Autriche demande à sa cour. La cour, c'est une vitrine pour la monarchie des Habsbourg. Il faut donc qu'elle soit particulièrement disciplinée. Pour reprendre les termes de Gil González d'Avila, que j'ai traduit, il s'agit que Madrid devienne la puissante cour et mère de la police chrétienne, maîtresse des meilleures mœurs et siège de la prudence et du conseil. Voilà donc comment Madrid voudrait se définir. Et donc on va essayer de comprendre comment ce projet de réforme a pu être réalisé, ou en tout cas comment ce projet de réforme a été à la fois élaboré et plus ou moins appliqué à Madrid pendant tout le XVIIe siècle. Alors je vais commencer par parler de la police, dans le sens de discipline. L'un des objectifs des alcades de cour, notamment, c'est d'imposer une meilleure discipline des mœurs à la ville. D'abord en contrôlant la prostitution. Pour attaquer la prostitution, les alcades de cour ne vont pas simplement délimiter l'exercice de la prostitution dans le quartier de Lavapièce, où vont être réunis les prostituées à partir de de 1617, hein, on commence en 1613, mais on réussit véritablement à créer une sorte de ghetto en 1617, avant de pouvoir ensuite, une fois que l'ensemble des prostituées auront été enregistrées, de pouvoir supprimer ou interdire en tout cas la mens sæbia et la prostitution, que l'on interdire officiellement. Donc il y a cette politique contre la prostitution et parallèlement, il y a une politique pour éviter que des servantes deviennent ensuite des prostituées en les contrôlant. À partir de 1614, on met en place trois maisons qui sont chargées de recueillir, de comptabiliser et de contrôler donc ce qu'on appelle les moças, donc des jeunes servantes qui viennent généralement des campagnes et qui vont chercher un emploi, à être employées par un maître de maison à Madrid. Et pour faire en sorte aussi que l'employeur ne profite pas d'elle, pour qu'elle ne soit pas ensuite soit chassée de la cour comme vagabonde, soit astreinte à la prostitution. Donc il y a un contrôle, ces servantes sont enregistrées et doivent régulièrement venir rendre compte de leurs activités tous les 4 jours à ce qu'on appelle une mère des moças qui s'occupe donc des domestiques, des servantes, des domestiques femmes. On a aussi la même chose un peu plus tard pour les hommes. Alors, à partir de 1623, officiellement, il n'y a plus de mens sæbias. La prostitution est donc, la prostitution officielle, celle de la municipalité, est interdite. Celle ensuite des rues est aussi interdite. On assiste à plusieurs arrestations, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'elle va totalement disparaître. Puisqu'en 1665, le Conseil de Castille fait remarquer au roi qu'il y a encore des prostituées qui travaillent pour des souteneurs dans un certain nombre de rues et que la justice manque de maisons de réclusion pour les y accueillir. Parce qu'une fois que les alguazils les ont arrêtés, soit on les met dans la prison de cour avec la prison dans la partie réservée aux femmes, mais ensuite on ne sait pas quoi en faire. À cette lutte contre la prostitution, je vais rapidement rajouter la lutte contre le concubinage, qui représente entre 4 et 10% de l'activité pénale des alcades de cour, telle qu'on peut la reconstituer au XVIIe siècle. On voit que c'est l'un des soucis des alcades de cour lorsqu'ils inspectent les hôtels. Je pense en particulier à la grande inspection de 1665. Mais si le concubinage est un crime pénal, les alcades de cour se montrent quand même peu intéressés par sa répression. Alors, discipline des mœurs, c'est aussi, ça veut dire aussi contrôle de la violence au profit de la justice. Et contrôle de la violence implique contrôle des armes. C'est ce que les alcades de cour doivent mettre en place au nom du Conseil de Castille à partir de 1618, avec un nouveau registre, un registre pour les propriétaires de pistolets et d'armes à feu de l'ensemble de la ville de Cours. Les propriétaires ont 10 jours pour faire connaître leurs armes, pour savoir s'ils les utilisent, sous peine de bannissement et d'une saisie de la moitié de leurs biens. Alors, ce registre, eh bien, il est complété petit à petit, l'application est difficile, elle devient plus effective à partir de 1632. Mais c'est pas encore suffisant, puisque en 1663, un rapport nous montre que pour cette année 1663, les alcades de cour n'ont enregistré que 659 pistolets, ainsi que leur coffret, 19 carabines, 85 pistolets longs. Et quand je parlais des 659 pistolets, c'est des pistolets courts, pistolets de cette taille. Donc un contrôle qui est partiel finalement de la possession d'armes. Le but c'est d'interdire le port des armes à un certain nombre de personnes. Mais il y a une résistance des corps privilégiés, notamment ecclésiastiques et militaires, qui vont évidemment résister à cette interdiction générale du port d'armes. Alors, pourquoi les armes ? Eh bien, les armes, ça sert à se défendre, notamment lorsqu'on est inspecté par les alcades de cour. Et ça sert à se défendre physiquement pour refuser le contrôle de la fiscalité par les alcades de cour. Donc, troisième point de cette discipline qui est imposée à la ville de cour, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Alors, cette lutte contre la fraude fiscale, elle va surtout s'intensifier à partir de 1630, grâce à la mise en place d'une nouvelle territorialisation de la capitale, c'est-à-dire qu'au système des six alcades de cour, qui partagent la ville, va être rajouté 20 quartiers, c'est-à-dire qu'on va rediviser la ville en 20 quartiers, de manière à ce que ces quartiers correspondent, évidemment, rentrent dans le cadre des circonscriptions des alcades de cour. À la tête de chaque quartier, il y aura ce qu'on appelle un zélador, un gardien qui tiendra registre et qui est contrôlé et nommé par les alcades de cour, qui doit tenir registre, comme le font d'ailleurs les alcades de cour, tenir registre des étrangers présents, de leur identité, de leur résidence, qui s'occupe aussi du contrôle de la gabelle et de la répartition du sel, et qui sont là aussi pour dénoncer tous les déviants aux alcades de leur quartier. Donc ils ont un travail de police, d'information, de renseignement, qui vient renforcer celui déjà développé des alcades de cour. Il y a évidemment aussi l'importance de la muraille, qui permet de concentrer ce contrôle aux portes. Hein, les portes, c'est très important. C'est là que les alguazils de cour mènent la garde de manière régulière. Chaque semaine est désignée pour chaque porte de la ville un certain nombre d'alguazils de cour qui seront là pour contrôler l'entrée et la sortie de marchandises. Alors, il n'y a pas que les alguazils de cour. Il peut y avoir aussi ceux du corrigidor, ceux de la ville, plus ceux de la junte des millions. Millions, c'est un nouvel impôt qui est créé au XVIIe siècle, une nouvelle taxe sur la consommation. Et pour pouvoir le prélever sur les marchandises, on place des gardes avec un registre à la porte, à l'entrée de certaines portes de la ville. Alors, les portes les plus importantes pour le contrôle, ce sont les portes d'Alcala, de Tolède. Ce sont aussi les lieux, évidemment, où se passent les principales rixes, ceux qui ne veulent pas se faire enregistrer, qui attaquent les alguaziles de cour, leurs gardes, etc. On a plusieurs cas pendant tout le siècle, notamment des militaires ou des membres de corps privilégiés qui considèrent ne pas avoir à répondre de la loi commune. Alors, ce problème, il va être constant pendant tout le XVIIe siècle. Et le problème de la fraude fiscale, il est lié aussi à deux autres phénomènes. D'abord, un phénomène que nous verrons ensuite, c'est les auberges, problème du trafic du vin dans les auberges et les différents débits de boissons, mais aussi le problème des dépenses. La dépense, c'est un privilège fiscal qui permet de faire entrer dans la ville un certain nombre de marchandises sans avoir payé d'impôt dessus. Alors, on a des institutions ecclésiastiques qui font partie de ceux qui ont des dépenses, les ambassades, les grands, certains membres de l'aristocratie qui peuvent ne pas être des grands, les hôpitaux et toute une série d'autres personnes qui ont pu avoir ce privilège accordé par le roi. Les hôpitaux, on a aussi certains corps de la maison du roi qui, évidemment, eux aussi bénéficient des dépenses. Et évidemment, ceux qui bénéficient des dépenses essayent de faire entrer le maximum de marchandises, bien plus que ce qu'ils peuvent faire entrer dans la ville légalement. Ils peuvent aussi utiliser leur espace, puisque c'est un espace qui bénéficie d'une dépense qui donc ne peut pas être contrôlée par les alcades de cour. Ils peuvent en faire bénéficier des particuliers qui vont ouvrir des débits de boissons clandestins, des salles de jeu, dans certains cas même des lieux de prostitution dans les couvents. Bon, toute une série d'activités qui normalement sont illégales ou qui devraient être taxées. Par exemple, le 19 novembre 1697, le Conseil de Castille dénonce les communautés ecclésiastiques, considérant que malgré la concorde qui était passée le 17 octobre 1693, eh bien, elle protège toujours des tavernes illégales qui sont dans leur enceinte et qui bénéficient en fait du statut ecclésiastique pour ne pas payer d'impôts. La même chose, par exemple, pour un couvent de la paroisse de Saint-Martin qui, en 1645, avait été découvert, accueillait des tables de jeu illégales. Donc, ces problèmes de fraude fiscale vont motiver une réaction pendant tout le XVIIe siècle des alcades de cour, soutenue par le Conseil de Castille, une offensive juridictionnelle. Alors, une offensive juridictionnelle qui est à l'image de l'Ancien Régime, c'est-à-dire qui n'est pas une politique continue, qui est une politique de l'exemplarité, de la discontinuité, c'est-à-dire une série finalement de coups de force, auxquels on donne plus ou moins une plus ou moins grande publicité, mais il n'y a pas de contrôle effectif, continu, sur donc sur ces espaces interlopes. Il faut bien voir aussi que au milieu du XVIIe siècle, la ville de Madrid regroupe plus d'une soixantaine de juridictions concurrentes de celles dépendantes du Conseil de Castille. C'est-à-dire si on rajoute les différentes juridictions civiles sous l'autorité du Conseil de Castille, ça fait encore un nombre encore plus important. Donc une multiplicité juridictionnelle qui est extrême et qui en fait s'est accentuée. C'est accentué depuis le début du XVIIe siècle, qui va continuer à s'accentuer jusqu'à la fin du siècle, et qui pose le problème du contrôle, finalement, du territoire, de l'espace urbain. Troisième point général, cette offensive juridictionnelle, elle se manifeste sur quatre points. Quatre points qui sont en fait les quatre moteurs de la construction juridictionnelle. D'abord, la dignité du personnage autour duquel s'est construite une juridiction. Personnage éminemment important. Le président du Conseil de Castille pour le Conseil de Castille. Le grand majordome pour la junte du bureau. Les alcades de cour, etc. Donc, autour de cette notion de dignité, s'est construite une juridiction. Et donc, la contestation de cette dignité par d'autres dignités concurrentes, eh bien, peut prendre la forme d'une offensive juridictionnelle à l'occasion de questions de préséance, aussi bien dans le palais que lors des grandes cérémonies publiques de la cour, et notamment des autodafés et des autres supplices publics. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le territoire. Vous avez des juridictions qui sont définies par un territoire, qui ont une définition territoriale, comme les alcades de cour, qui ont juridiction sur Madrid et les cinq lieux qui l'entourent. Mais cette juridiction territoriale n'est jamais très précise. C'est-à-dire que les frontières sont toujours floues. Elles sont nécessairement floues parce que chaque juridiction espère agrandir son territoire. Donc il ne faut pas que les choses soient juridiquement clairement fixées pour pouvoir gagner du territoire sous la juridiction concurrente. La même chose pour la juridiction ecclésiastique qui n'est jamais clairement définie. Est-ce que le parvis de l'église fait partie de la juridiction ou pas? Est-ce que ses jardins font partie ou pas? Etc. On retrouve ces problèmes évoqués dans les procès de compétences. Troisième point de ce conflit, c'est la question de la personnalité. Une juridiction, elle peut être définie par un groupe, Et par un principe, on ne peut être jugé que par les siens. Donc, un inquisiteur aura une juridiction privative, il ne pourra être jugé que par les inquisiteurs. La même chose, par exemple, pour un biscayen qui prétendra ne pouvoir être jugé que par le grand juge du Seigneurio de Biscaya. Donc, il y a cet aspect personnel, privatif. Le problème, c'est qu'on n'appartient jamais qu'à un corps, on appartient à plusieurs. Et donc, dans ce cas-là, il y a concurrence pour savoir à qui appartient l'affaire de telle ou telle personne ayant commis un crime. Donc on va voir maintenant comment cela se passe concrètement, avec notamment les tribunaux ecclésiastiques. Cette offensive juridictionnelle, elle rentre dans le cadre d'une politique régaliste, d'opposition à l'Église, et dont les enjeux dépassent largement la ville de Madrid. C'est-à-dire que les enjeux sont aussi des enjeux de politique extérieure, des rapports entre le pape, le nonce et notamment les rois d'Espagne comme Philippe IV. En devenant une ville de cour, Madrid a développé le nombre des couvents, des églises. Il y a à peu près 160 couvents et églises au milieu du XVIIe siècle à Madrid, plus les terrains qui leur appartiennent. Cela représente au milieu du XVIIe siècle, 9,4% de la propriété immobilière. C'est donc 9,4% du territoire madrilène qui prétend échapper à la loi commune des alcades de cour. Sur ce territoire vivent en 1617 3500 personnes, qui sont 3500 personnes membres du clergé, auxquelles il faut rajouter la famille, les dépendants, domestiques, etc. Donc toute une population. Il y a à la fois un territoire et une population qui prétendent échapper à l'autorité pénale et fiscale des tribunaux contrôlés par le Conseil de Castille. Pedro López, en 1667, est arrêté par les alcades de cour, incarcéré dans la prison de cour, après avoir blessé une autre personne près d'une église, près de l'église de San Justo. Il y a eu un règlement de compte avec son frère et huit compagnons. Ils sont allés se battre contre Pedro López. Donc Pedro López est allé se battre contre Juan de Valero, la victime, il l'a tué. Et ensuite, il prétend bénéficier du fort ecclésiastique à deux titres. D'abord, la proximité de l'église, et puis ensuite, du fait qu'il est étudiant. Parce qu'il y a aussi le problème des étudiants. Alors, il n'y a pas d'université à Madrid, mais beaucoup d'étudiants d'Alcala vivent à Madrid. Et l'université, c'est aussi une juridiction ecclésiastique, qui a son autonomie et qui, en appel, dépend soit de l'archevêque de Tolède, soit du nonce d'Espagne qui a donc son tribunal supérieur à Madrid. Se pose aussi le problème de l'immunité ecclésiastique. Jusqu'à quel point faut-il respecter l'immunité ecclésiastique? Alors, en 1663, les conseillers de Castille rappellent à Philippe IV que, finalement, ces 160 et toutes ces églises représentent véritablement ce qu'ils appellent les refuges du crime. Ils accueilleraient que des criminels. Alors, il faut bien voir que la loi autorise les alcades de cour à intervenir dans plusieurs cas. S'il s'agit de voleurs de grand chemin, de ceux qui ont commis des crimes de lèse-majesté, bien entendu. Là, l'alcade de cour est autorisé à rentrer dans l'église pour s'emparer du criminel. Bon, normalement, il devrait, par politesse, attendre l'avis du vicaire. Généralement, on a une série de cas où les alcades de cour viennent avec leurs carabiniers et puis défoncent la porte pour s'emparer de telle ou telle personne. Donc, le rapport était relativement violent. D'autant que ces alcades de cour se sentent soutenus du fait de la politique régaliste de la monarchie qui veut à tout prix réduire la juridiction du nonce. Ces problèmes de juridiction existent aussi avec les tribunaux militaires. Alors, avec d'abord les trois gardes du roi, qui juridiquement en appel dépendent soit de la junte du bureau, soit du conseil de guerre. Il faut bien voir que ces gardes du roi ne vivent pas dans une garnison. Ils vivent au milieu de la société civile, ils sont logés chez des particuliers. Donc, lorsqu'ils commettent des crimes, ils les commettent sur des madrilènes qui, eux, dépendent des alcades de cour. Ces gardes du roi profitent aussi de leur statut pour essayer de monter des auberges, des salles de jeu ou d'autres commerces, notamment le commerce aussi d'autres lieux de boissons, pour montrer des commerces sans avoir à payer les cissas et différentes taxes sur la consommation. Et ils rentrent dans ce cadre-là en conflit avec les alcades de cour, ce qui conduit à un conflit de juridiction et à des procès assez longs. À cela s'ajoute l'armée ordinaire, c'est-à-dire que à plusieurs reprises, Philippe IV, pour lutter contre les rebelles de Catalogne ou du Portugal, réunit l'armée dans les environs de Madrid. Ça veut dire qu'on va retrouver des militaires dans la ville de Madrid, militaires qui sont difficiles à contrôler. Alors on va charger les alcades de cour de contrôler les déserteurs. Ils ont le droit d'arrêter les déserteurs et de les punir. Ils ont aussi le droit de contrôler le recrutement militaire, et notamment le recrutement par force. Hein, on a plusieurs alcades de cour qui interviennent là-dessus, qui démantèlent de véritables réseaux, avec des capitaines plus ou moins honnêtes, qui, vont souler des individus pour ensuite leur faire signer un acte d'enrôlement. Ils les enferment dans des caves et ensuite on les conduit directement dans l'armée, à l'extérieur de la ville de Madrid. Pourquoi est-ce que le roi, malgré l'appareil législatif qui est toujours plus répressif, accepte dans une certaine mesure la fraude fiscale des militaires, surtout Charles II, c'est parce qu'il n'a plus les moyens financiers de les payer. Les différentes consultes de Charles II et à partir de 1675-1680 montrent, par exemple, pour la garde des archers, que le roi laisse faire, demande aux alcades de cour de ne pas fermer les auberges illégales, disons, tenues par ces archers, parce que il leur doit 20 ans de solde, et que finalement, comme il ne veut pas les payer, faire du commerce illégal, c'est une autre manière de les rémunérer, ou en tout cas d'obtenir une relative tranquillité de ces gardes royales. Le contrôle, il est de plus en plus strict aussi, grâce au registre. Là encore, les alcades de cour développent une politique du registre. Ils obtiennent d'abord des différentes gardes royales, puis ensuite de la garde de la ministre, de l'armée ordinaire, un signalement automatique des soldats qui ont été qui ont perdu leur place ou qui ont déserté, ce qui permet d'accumuler une information pour ensuite pouvoir les arrêter et les faire juger par un tribunal civil. Donc une amélioration du registre, d'autant plus que pour l'armée ordinaire, à partir de 1642, la monarchie essaye d'associer à la procédure pénale militaire les alcades de cour, de deux façons. Soit l'alcade de cour devient celui qui va instruire le procès pour le capitaine, qui est toujours le juge de première instance, mais l'instruction sera faite par un lettrado, donc sous le prétexte que le lettrado est plus compétent que les autres. Soit on donne à certains alcades de cour le titre d'auditeur général, et à ce moment-là, ils deviennent eux-mêmes des juges militaires. Et donc le problème est réglé, d'une certaine façon. Dernière opposition dans cette offensive juridictionnelle, celle du corps de ville. Le corps de ville, comme je l'ai dit, est présidé par le corregidor. En fait, il y a deux juridictions. Vous avez la juridiction de la ville, qu'on appelle le juzgado de villa, qui est une juridiction de première instance, de seconde pour les villages et les petites villes qui font partie des campagnes de la ville de Madrid, du territoire de la ville de Madrid. Avec un personnel d'avocats, de greffiers, de procureurs, chargée aussi bien de lutter contre la fraude fiscale que d'instruire des procès pénaux ou civils. Et puis se surajoute à cela la juridiction du corregidor, qui a ses propres moyens, entre 40 et 50 alguaciles de ville à son service, deux lieutenants, l'un pour les procédures criminelles, l'autre pour les procédures civiles, et qui, en tant que président du corps municipal, peut en fait utiliser la juridiction de la ville à son profit. Alors le problème, c'est que ce corregidor a aussi des fonctions de police qui sont parallèles, qui sont identiques finalement, qui sont identiques à celles des alcades de cour, ce qui crée du conflit. On a une série d'affrontements réguliers entre 1618 et 1650 qui sont signalés au Conseil de Castille. Alors il s'agit aussi bien de questions de prééminence. Par exemple, lors de la procession de la Semaine Sainte, eh bien, le corregidor a oublié de lever son chapeau au passage de l'alcade de cour. Donc ça crée un problème de prééminence. Ça se traduit par des bagarres. Les alguazils arrivent pour l'arrêter. Puis les alguazils de ville arrivent aussi, mais pour arrêter l'alcade. Donc une petite bagarre et un conflit de juridiction qui sera jugé par le Conseil de Castille. Cette question de préséance, c'est une manière aussi de reconnaître, de manière, j'allais dire, symboliquement, la supériorité juridictionnelle du tribunal des alcades de cour sur le corregidor. Donc c'est quelque chose d'éminemment important pour lui. L'autre problème, ce sont les procédures. Officiellement, surtout à partir des années 1630, le corregidor ne peut condamner à des peines corporelles sans l'accord d'un alcade de cour. Donc il est, pour certaines sentences, dépendant de l'alcade de cour. La même chose pour l'usage de la torture judiciaire. Et le corregidor a beaucoup de peine à reconnaître cette supériorité juridictionnelle. Par exemple, un arrêt du 10 novembre 1620 notifie aux greffiers de la ville qu'ils doivent informer le tribunal de cour des appels déposés par les condamnés à des peines corporelles dans les deux jours qui suivent, donc la déposition de l'appel, sous peine d'une suspension de leur office et d'une amende de 20 000 maravédis. On va retrouver ces conflits tout le long du XVIIe siècle. Ces conflits peuvent aussi survenir à l'occasion de rondes, puisque les alguazils de ville font aussi des rondes, et se pose à ce moment-là la question de la prééminence, lorsqu'ils rencontrent des alcades de cour ou des alguazils de cour, ou de la possession de telle personne qu'ils viennent d'arrêter, est-ce qu'il faut la mettre dans la prison de ville ou dans la prison de cour. Donc cette lutte juridictionnelle, elle est en fait finalement une guerre des justices, elle exprime une guerre des justices entre les alcades de cour et les différents corps de la ville et de la cour, différents corps plus ou moins privilégiés. Elle se traduit de manière concrète dans le tissu urbain par une véritable conquête de la ville. Sur laquelle je vais revenir rapidement. Alors, d'abord, la conquête de la ville, ça veut dire la maîtrise de l'espace et la maîtrise de certains lieux. Dans la conquête de la ville, ce qui compte, c'est d'abord maîtriser les environs des palais, des ambassades et des théâtres. À travers l'exercice de la ronde, les alcades de cour mènent une lutte contre les palais des grands. Les grands ayant tendance à considérer qu'ils devraient bénéficier d'une juridiction seigneuriale supérieure, n'admettent pas que leur laquais compromis dans tel ou tel délit puisse être arrêté, et à ce moment-là, ils peuvent intervenir directement, l'épée à la main. C'est valable pour leur laquais, pour leur valet, pour les parents qui vivent dans leur maison. C'est une manière pour eux d'affirmer leur territoire juridictionnel, qui évidemment n'a aucune base légale, mais qui rappelle eh bien finalement un héritage médiéval des grandes baronnies. C'est valable aussi pour les officiers des rois, notamment les pages des écuries royales. Par exemple, en 1678, de nuit, l'alcalde des Juan Pardo de Monzón entre dans le bâtiment des alcades des écuries royales, sans être accompagné par des pages, sans leur autorisation, pour poursuivre un délinquant. Et il se fait accueillir par des jets de pierre, des domestiques, qui vont tenter de le repousser. Après quoi, il fait venir les alguazils, il y a un petit combat, et puis les domestiques seront ensuite arrêtés. La même chose, par exemple, pour l'infante, d'autres qui jettent des pierres sur l'alguazil de cour, les laquais jettent des pierres sur l'alguazil de cour Lucas de Medina, près de la porte de Ségovie. Ils n'ont pas envie de se faire enregistrer, de payer telle ou telle taxe sur les marchandises qu'ils transportent. Et ils considèrent qu'ils représentent une juridiction privilégiée. Bon, il y a toute une série de mesures. On peut faire rentrer aussi là-dedans certaines attitudes certaines attitudes de résistance des grands. Lorsque les alcades de cour doivent intervenir dans leur résidence pour arrêter telle ou telle personne. C'est un peu la même chose pour la police des ambassades, qui devient plus violente, plus difficile après 1640, le sera encore plus après 1670 pour des raisons qui relèvent de la politique extérieure, de la monarchie, et l'affaiblissement des Habsbourg d'Espagne. Alors, généralement, le conflit avec les ambassades, c'est lorsque les alguazils dans leur ronde découvrent un délinquant ou veulent arrêter un délinquant, et celui-ci se réfugie dans la résidence de l'ambassadeur, et donc il faut rentrer dans la résidence de l'ambassadeur, avec ou sans son accord. Il y a une ronde qui se passe dans la rue à côté de la résidence de l'ambassadeur et ceux qui font cette ronde sont agressés par les laquais qui vont leur arracher leur bâton de commandement, symbole de la justice, et leur écusson, qui symbole là aussi la justice du roi, prétextant qu'il s'agit là de la juridiction de la résidence diplomatique. Alors, il faut bien voir que la notion d'extraterritorialité n'est pas clairement reconnue par la monarchie et que les ambassadeurs ordinaires, je parle des ambassadeurs ordinaires, sont la plupart du temps les invités du roi. Et en tant qu'invités du roi, ils dépendent de la justice réservée du monarque. Et cette justice réservée du monarque, c'est celle des alcades de cour. C'est-à-dire que les alcades de cour interviennent dans les ambassades, non pas interviennent dans les ambassades pour la sécurité des ambassadeurs, puisqu'ils ont à charge cette sécurité qui leur a été confiée par le roi. Et que la notion de territoire de l'ambassade est une notion qui n'est pas, en tout cas, reconnue par le Conseil de Castille, ni par la loi, la Nueva Recopilación. Alors, je prends l'exemple d'un assaut un peu violent contre l'ambassadeur, la maison de l'ambassadeur de Luc, en 1656. Les juges de cour Vicente Bañuelos et Juan Ramírez de Arellano, qui dirigent avec une troupe de 200 hommes armés de mousquets, l'assaut de l'ambassade, qui avait refusé d'ouvrir ses portes, pour arrêter un capitaine de bandits. Alors, une véritable bataille, il y a 12 blessés, des coups de feu qui partent de tous les côtés. La résidence est mise à sac par la troupe des alcades de cour. Et 50 personnes sont arrêtées. Bon, ensuite, ça se réglera au niveau de la monarchie par un problème des protestations, un problème de compétences. Mais personne ne remettra en cause, je dirais, la légitimité de l'action des juges de cour d'un point de vue territorial. Cette hostilité, elle va augmenter donc ces ambassades qui revendiquent une extraterritorialité vont se mettre d'accord entre elles, surtout à partir de 1670, où on retrouve les mêmes problèmes, la même façon de procéder, attaquer les laquais, s'emparer de leur bâton de commandement, de la barre. blesser éventuellement mortellement des ministres de la justice au nom d'une inviolabilité de la résidence diplomatique qui est pour le moins contestable, si ce n'est contestée, dans le système castillan. Dernier lieu de risque, c'est le théâtre. Le théâtre qui... le choral de Las Comedias, qui normalement est dépend d'un juge particulier, un juge privatif, le juge des Comedias, mais ce juge des Comedias est aidé et puis surveillé par les alguaciles de cour. Et donc, lorsque un personnage refuse de payer, lorsque il y a du désordre, eh bien, les alguaciles de cour sont obligés d'intervenir, quitte à mettre fin à la séance. Par exemple, en 1652, on a le soldat de la garde espagnole, Juan de Montesérin, qui se dispute, refuse de payer sa place parce qu'il considère qu'il l'a déjà payé contre le garçon qui le lui demande. Il tire l'épée et il commence à se battre avec lui. Résultat, les alguaciles de cour interviennent et le théâtre est envahi donc par les troupes de la justice des alcaldes de cour. Donc ça, ce sont les premiers lieux à investir pour développer cette police des alcaldes de cour. Les autres lieux à investir, deuxième espace important à investir, matériel, ce sont les hôpitaux, les couvents et les églises. Alors, voilà, par exemple, les couvents, on a un exemple ici, nombreux à Madrid. Les hôpitaux qui ont... Alors, les couvents ont une juridiction ecclésiastique, dépendent du vicaire qui représente l'archevêque de Tolède, et en appel peuvent aller devant le tribunal de l'annonciature. Alors, le problème pour les églises et les couvents, c'est l'exercice de l'immunité. Je n'y reviens pas, puisqu'on l'a déjà vu. Une immunité qui est relative, puisque normalement, un certain nombre de délits sont exclus de l'immunité des églises. Ensuite se pose le problème des ecclésiastiques ou des membres de l'église qui commettent des crimes mixtes, c'est-à-dire des crimes qui relèvent aussi bien de la juridiction ecclésiastique que de la juridiction civile. Et là, depuis Philippe II, la monarchie a développé un système particulier qui est ce qu'on appelle qui est en fait une dénonciation pour abus de la juridiction ecclésiastique faite par le Conseil de Castille qui permet de remettre une affaire qui était devant le vicaire devant un tribunal civil choisi par le Conseil de Castille. Donc c'est une procédure classique du ce qu'on appelle le recours de force, qui est donc une procédure classique du conflit de compétences. Mais je voudrais surtout insister sur les hôpitaux. Sur les hôpitaux, notamment l'hôpital de Cour, qui est l'objet d'un conflit entre la maison du roi, le conseil de Castille, la ville de Madrid, l'église, tout le monde veut s'en emparer. L'hôpital, par définition, dépend de l'église, c'est un bâtiment ecclésiastique, et depuis la bulle de 1529. À partir de Philippe II, on crée une junte pour gouverner l'hôpital de cour. Cette junte est composée par un conseiller de Castille et l'alcade de cour le plus ancien, et puis par des représentants de l'Église. Donc il y a un gouvernement mixte. Ensuite, cette junte va progressivement changer pour... En 1685, être gouverné par deux conseillers de Castille, l'alcalde le plus ancien, un député de la ville, un représentant du corps municipal et le vicaire de Madrid. Donc la majorité sera tenue par les officiers civils. Par ailleurs, les décisions de la junte seront toutes appliquées par les alcaldes de cour et pas par des officiers ecclésiastiques. Et tout ce qui relève de la pénalité passera obligatoirement par le contrôle du Conseil de Castille. mieux, les moines qui peuvent officier dans l'hôpital général ne seront pas considérés comme des religieux, pas systématiquement, et pourront être légalement châtiés par un alcade de cour en cas de crime pénal. En cas de crime pénal, pardon. Donc ça, c'est un premier contrôle. Il y a un deuxième contrôle qui est celui des blessés, qui va se développer à partir surtout de 1625. C'est-à-dire que deux fois par semaine, les greffiers accompagnés d'alguazil vont visiter les blessés pour voir s'il y a lieu de mettre en place des procédures pénales, pour voir qui est, pourquoi telle ou telle personne a été blessée, s'il n'y a pas là un crime de sang, et donc des auteurs à punir. Et une procédure qui permet à l'institution, évidemment, de vivre. Ce système, il va se développer. Les alcades de cour vont pouvoir contrôler comme ça les 20 hôpitaux de la capitale, qui dépendent de l'hôpital général, mais vont rester exclus de leur contrôle les hôpitaux des nations étrangères. Et notamment les 6 hôpitaux, l'hôpital des Aragonais, des Italiens, des Portugais, des Flamands, des Écossais et des Français, qui garderont leur juridiction privative. Donc la conquête de l'hôpital, à moitié réalisée au cours du XVIIe siècle. Ensuite, dernier territoire à conquérir, ce sont les places, les marchés, puis la rue. Alors, la première chose pour contrôler la rue, c'est d'abord de contrôler la parole dans la rue, et en particulier de développer les criers publics. Vous avez ici une carte des principales criers publics pour les années 1606-1663. La publicité de la loi, faite par les alcades de cour, avec trompette, alguazil, tout un défilé. Donc, il y a plusieurs arrêts dans les principales rues de la monarchie. On va lire le texte de loi, qui est souvent une reprise de ce qui a été fait auparavant. Donc, ce sont des criers qui ne cesse de répéter régulièrement la loi du roi. Les points rouges sont les points où il y a placard, où on placarde la loi sur les murs pour montrer symboliquement que bien la force de la justice du roi. Alors, cette politique de placard, elle n'est pas le monopole des alcades de cour, il y a aussi le corregidor. Et puis il y a des concurrents, j'allais dire, privés, notamment des grands, qui, dans leur l'expression de leur pratique du duel, hein, les grandes familles qui peuvent faire placarder leur défi lancé à un autre grand pour un duel. Et ils le font notamment aux portes du palais, ou aux portes du palais municipal, voire dans certains cas devant la prison de cour, ce qui suscite l'intervention des alcades de cour, qui veulent maîtriser, j'allais dire, cet espace symbolique de la publicité. Ce qu'on appellerait les cérémonies de l'information. Dernier espace, celui de l'auberge, du Bois des Gones. Normalement, les Bois des Gones sont, comme les auberges, sont contrôlés par la monarchie, qui tient un registre. Ce sont les alcades de cour qui vérifient ce registre, accordent des autorisations, font des inspections régulières pour voir que les prix fixés par eux soient bien respectés, notamment les prix du vin. Alors, en 1658, par exemple, on a 395 aubergistes officiels qui détiennent une licence pour exercer leur activité. Eh bien, évidemment, il y a beaucoup plus d'auberges à Madrid que celles enregistrées. Il y a toutes ces auberges clandestines tenues par des militaires ou des ecclésiastiques, mais surtout des militaires qui profitent de leur juridiction privilégiée, de leur juridiction particulière, privative, pour tenter d'échapper à la fiscalité des alcades de cour et à la juridiction des alcades de cour. Alors, lorsqu'ils sont arrêtés, eh bien, ils essayent de provoquer un conflit de juridiction pour être jugés par leur capitaine, ce qu'ils n'arrivent pas toujours à faire. lorsque leur affaire arrive et finalement donnée ou récupérée par le capitaine, soit d'une des trois gardes du roi, soit le capitaine de la milice, souvent ce capitaine les place dans une prison. Parce que les trois gardes du roi, elles n'ont pas de garnison, mais elles ont une prison particulière qui dépend d'eux et qui est placée sous la juridiction du bureau de la Junta del Bureo. Ce sont ces prisons qui sont aussi dénoncées par le Conseil de Castille, qui considère qu'elles servent à leur tour d'auberge clandestine, puisque le trafic du vin y serait important. Pour finir, je vais essayer de limiter mon propos sur de poser les limites, j'allais dire, de ce contrôle des alcades de cour sur Madrid, en revenant sur cette conflictualité madrilène. Madrid a souvent été considérée par l'historiographie traditionnelle, surtout en comparaison de villes comme Paris ou Londres, comme une capitale relativement tranquille, avec très peu d'émotions populaires avant 1699. En fait, lorsqu'on consulte les archives judiciaires, on s'aperçoit que cette réalité est à nuancer, que la résistance à cette discipline que cherchent à imposer les alcaldes de cour appuyés par le Conseil de Castille, cette résistance, elle est violente et elle se traduit par des émeutes. Alors, ces émeutes, elles sont d'abord attachées à la question militaire et en particulier au statut des gardes du roi. Alors, je vais prendre quelques exemples. En 1624, en 1626, la garde espagnole qui n'admet pas l'arrestation d'un éleur par les alcades de cour, eh bien, va assiéger la prison de cour, que vous avez ici. C'est-à-dire qu'on va l'encercler. Les militaires vont tenter de fracasser les portes. Ils vont récupérer les bancs d'église qui se trouvent derrière pour essayer de fracasser les portes. Alors, en 1626-1624, c'est la garde espagnole. En 1650, c'est la garde allemande qui fait la même chose pour le même problème, la non-reconnaissance de cette juridiction des alcades de cour, considérant qu'on enlève à un militaire ses privilèges et son identité s'il est jugé par un tribunal civil. Mais en 1650, la chose est encore plus grave, parce que, d'après différentes chroniques et différents témoignages, il y aurait jusqu'à 4000 personnes qui se regrouperaient derrière les militaires pour crier à bas le mauvais gouvernement et qui veulent en découdre aussi avec les alcades de cour, qui à ce moment-là se réfugient, ferment les portes et se réfugient dans leur prison qui est aussi le siège de l'audience. L'assaut est mené en présence du capitaine de la garde allemande, qui est le beau-frère du favori du roi. C'est Pedro Aragon qui est le beau-frère de Louis de Haro. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il le supervise de son carrosse, mais tout le monde sait bien qu'il est là. Donc sa présence publique rajoute à la gravité du soulèvement militaire, qui devient une insurrection populaire, qui aboutit ensuite à une négociation entre les militaires, le Conseil de Castille, les alcaldes de cour pour calmer le jeu. Dernier épisode important de cette conflictualité militaire et populaire, c'est l'épisode de 1673. Deux soldats sont assassiné le 27 septembre 1713 par des laquais de l'ambassadeur du Portugal. Immédiatement, donc, il y a un sentiment évidemment anti-portugais dans la population. Le Portugal a été reconnu l'indépendance entre guillemets du Portugal a été reconnue depuis peu, depuis 1668. Et donc on a plus de 1000 personnes, en tout cas une foule, qui se déplace pour prendre d'assaut l'ambassade. parce que ces militaires, finalement, assassinés, sont considérés comme deux victimes injustes, au nom toujours d'une revendication de justice. Il y a une véritable clameur qui s'exprime à cette occasion. Normalement, comme je l'ai dit, les ambassades sont protégées, leur sécurité est assurée par les alcades de cour. Donc on a les deux alcades de cour qui assurent la sécurité du diplomate portugais qui commence par intervenir, mais très vite ils sont dépassés. Un jet de pierre, coup de feu, quelques blessés, deux morts. Et ils vont réussir, j'allais dire, à exfiltrer l'ambassadeur, mais l'ambassade sera saccagée, ce qui produira donc ce qui montre cette relation entre particulière entre la population de Madrid et les militaires. D'autres types de d'émotions populaires qui ont toujours une origine ou qui reviennent, j'allais dire, dans le cadre du discours juridictionnel. Par exemple, chez les boulangers, en 1680, vous avez un certain Marcos Diaz qui contestait la politique fiscale, qui est assassiné, enfin, qui meurt, semble-t-il, tué par des officiers du roi, peut-être dans le cadre d'une arrestation plus ou moins claire. Les boulangers se mettent en grève, les cordonniers suivent, hein, c'est plus de 400 artisans. Et ils se regroupent pour venir sous les fenêtres de la résidence du président de Castille, crier à bas le mauvais gouvernement, jeter des pierres. On a des cordonniers qui tirent l'épée et qui vont jusqu'à blesser l'alcade de cour qui était intervenu pour défendre la résidence du président de Castille. Et on retrouve, j'allais dire, ce jeu en 1699, mais cette fois-ci, les alcades de cour ont, entre guillemets, l'intelligence de laisser intervenir le corregidor, qui lui sera dépassé par la situation, et finalement n'interviennent pas directement. Et c'est le roi lui-même qui, face à la foule, va intervenir pour ramener le calme et confirmer eh bien, le renvoi du mauvais ministre, du favori Oropesa. Donc, pour finir, Madrid, ville de cour, c'est une ville qui permet à la monarchie espagnole de découvrir les problèmes de la métropole, du gouvernement d'une grande ville de plus de 100 000 habitants, une ville difficile à gouverner, malgré toutes les mesures prises pour discipliner, entre guillemets, la population, tant du point de vue de la morale chrétienne que de la fiscalité ou de l'ordre juridique, eh bien, cette ville résiste. Elle résiste à travers ses corporations de métier, comme ordre privilégié, que sont les différentes gardes, les différents corps militaires et différents corps de l'Église et du clergé à Madrid. Voilà.